Musique. Que me veux-tu ? La chronique de Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Chronique d'une joute esquivée, joute entre Jean-Sébastien Bach et Louis Marchand. Alors cette musique que nous venons d'entendre avec ce sombre lyrisme, ce pathétisme tout à fait extraordinaire. Dans sa brièveté, j'y entends tant d'humeurs changeantes, imprévisibles, douloureuses, et puis aussi cette grandeur altière et grave, ce sens du pathétique. Au fond, est-ce que toute musique d'apparence libre comme celle-ci ne constitue pas une sorte d'instantané, d'autoportrait d'un musicien? En tout cas, c'est ainsi que je l'entends. Il s'agissait de Louis Marchand, d'une pièce pour clavecin de Louis Marchand. Or, à l'exception des amateurs d'orgue, la musique, le nom même de Louis Marchand reste bien peu connu ou pratiquement inconnu aujourd'hui. Et pourtant, ce Louis Marchand a été l'un des musiciens français les plus célèbres au début du XVIIIe siècle, à Paris comme à Versailles, au même titre que François Couperin et Jean-Philippe Rameau. Célèbre en effet comme organiste, mais aussi comme claveciniste, comme compositeur, et puis il s'est également acquis une sombre renommée par les dérèglements de sa vie privée, et plus encore par sa rencontre avec Jean-Sébastien Bach que j'aimerais évoquer pour vous aujourd'hui. Comme Rameau, Marchand est issu d'une famille d'organistes bourguignons. Il vient de la province, il va monter à Paris. Son père, Jean, est un organiste et occupe des postes divers en plusieurs villes, sans grand succès, semble-t-il, parce que la revue très célèbre, la revue culturelle, le Parnasse François, le dit même « organiste médiocre ». Louis Marchand, son fils, naît à Lyon le 2 février 1669, exactement 3 mois après François Couperin, et 3 ans avant Nicolas de Grigny. Au fond, c'est la constellation trinitaire de l'orgue, les 3 étoiles majeures de l'orgue classique français qui apparaissent au firmament à peu près au même moment. L'enfant Louis Marchand est précocement doué. Il travaille avec son père, qui était peut-être un bon pédagogue finalement. Et puis, dès l'âge de 14 ans, il tient l'orgue à Nevers, où son père a été nommé. Mais il est pétri d'ambition et le voilà évidemment attiré par la capitale et par la cour. Il arrive à Paris en 1689, il a tout juste 20 ans. Et c'est alors que tout va se gâter et que notre Marchand va commencer à défrayer la chronique. Ce que l'on sait de lui tient surtout, beaucoup plus qu'à son activité de musicien, au parfum de scandale qui le suit, qui le précède même, et au procès qu'il condamne. Et pourtant, les choses commençaient bien. Le jeune homme est très doué, entreprenant, il mène sa carrière au pas de charge, il est déjà célèbre à 20 ans, il commence à publier et il se fait admirer comme virtuose. Nous sommes à la fin du règne de Louis XIV. On le voit titulaire de plusieurs tribunes réputées, il est au collège des Jésuites de la rue Saint-Jacques. Un peu après, le Mercure de France nous apprend qu'il est à Saint-Benoît, au couvent des Cordeliers, donc les grandes paroisses de Paris. Il donne des concerts qui attirent le plus vaste auditoire. Il faut des services d'ordre dans la rue pour régler le trafic des carrosses. On va même jusqu'à le comparer à Orphée en personne, alors qu'il a tout juste 30 ans. En 1703, le voici à Saint-Honoré, Et puis, 3 ans plus tard, la consécration arrive, sa nomination comme organiste du roi à la chapelle royale de Versailles. Mais 7 ans plus tard, en 1713, voici que Marchand abandonne d'un coup tous ses postes et quitte la France. Que s'est-il donc passé ? Eh bien, dès son arrivée à Paris, le jeune musicien avait épousé une Marie-Angélique Denis, fille d'un facteur de clavecins, Louis Denis, lui-même dernier représentant d'une illustre dynastie de facteurs d'orgue et de clavecins parisiens, actifs depuis la fin du XVIe siècle. Or, d'après divers témoignages, les relations entre les époux se seraient rapidement dégradées. Marchand trompe sa femme, il la bat, à tel point que Marie-Angélique obtient la garde de leurs 3 enfants dans la séparation de corps et de biens d'avec son mari, qui est alors prononcé, ce qui était même assez rare, sous le règne de Louis XIV. La dite épouse devra ensuite le poursuivre sans relâche et avec une extrême opiniâtreté d'ailleurs, pour se faire verser la pension qui lui a été octroyée. Mais à la lecture des documents du temps, on peut quand même se demander si les torts n'étaient pas partagés, parce que le dévot souverain n'aurait pas nommé à sa chapelle un homme aussi notoirement dévoyé ou dissolu que certains veulent bien le dire. Quant à la mal nommée Angélique, elle avait des antécédents familiaux pesants. Son propre père avait vécu criblé de dettes, sans jamais reculer devant les intrigues familiales. Toujours est-il que de son côté, Marchand n'hésite pas à porter de faux témoignages sur la moralité de sa femme pour la faire condamner. Tout ça est vraiment très vilain. Mais ses machinations n'ont pas de succès, heureusement, mais on dit quand même Marchand orgueilleux, fantasque. Déjà à 22 ans, il avait calomnié publiquement l'organiste Pierre d'Andrieux, qui était un religieux en plus, pour lui ravir son poste. Une autre fois, il s'attribue la paternité d'une pièce célèbre de François Couperin, « Les Bergeries ». « Et voici que dans des circonstances qui n'ont toujours pas été élucidées, Marchand quitte la France, je l'ai dit. Alors peut-être est-ce le vieux Louis XIV lui-même qui l'a exilé, ce qui ne serait pas impossible, parce qu'il ne badinait pas du tout avec ces choses. Il avait déjà chassé du royaume le compositeur Henri Desmarets pour des questions d'incivilité. À 44 ans, Marchand n'est plus un jeune homme et il est célèbre. Mais il tente l'aventure. Il entreprend un grand voyage en Europe. Il traverse les contrées germaniques, il se produit dans les cours, il joue devant l'empereur à Vienne. Et puis ses pas le mènent plus au nord, à Dresde, où il arrive en 1717. Et là, il éblouit la cour, très francophile naturellement et italianophile également. Auguste Lefort, le fameux électeur de Saxe et roi de Pologne, tombe éperdu d'admiration devant tant de talent. Et comme on le comprend, il veut retenir Marchand à sa cour. Il lui fait un pont d'or, un poste permanent, un revenu annuel de 1000 thalers, ce qui est une aubaine pour le français en rupture de ban avec sa patrie. Mais tout cela aux grandes dames des musiciens établis à la cour qui connaissent de réputation l'ambition du français. Ceux-ci ne vont pas l'entendre de cette oreille, et comme on les comprend, ils voient en Marchand un futur rival. D'autant plus que la réputation de ce personnage difficile et ambitieux l'a précédé. En toute logique, les musiciens de la cour de Dresde vont donc tenter de provoquer Marchand en lui suscitant un concurrent. Et voici comment on peut reconstituer l'affaire à la lumière des nombreux récits qui en ont été faits. Personnellement, je les ai lus tous et j'ai tenté de me faire une idée qui ne doit pas être très loin de la réalité de ce qui a pu réellement se passer. En cet automne de 1717, où Marchand vient de s'installer à Dresde, le maître de concert de la cour, qui est violoniste Jean-Baptiste Volumier, imagine de provoquer Marchand dans une joute musicale, s'entend, comme on les aimait alors. je remarque que ce Volumier, un joli nom, bien français, était un musicien de grand talent, mais en réalité lui-même un étranger, un flamand, nommé Wühlmeier, né en Espagne, formé en France et établi à Dresde. Formé en France, d'où la traduction de son nom en français, ce qui était à l'époque d'ailleurs un excellent atout pour réussir en Allemagne. Volumier a pour ami Jean-Sébastien Bach, dont il admire le prodigieux talent d'exécutant. Seul dans toute l'Allemagne, pense-t-il, Bach peut à coup sûr en remontrer à Marchand. Donc vous voyez venir la suite de l'affaire. Toujours très curieux de rencontrer ses collègues célèbres, Bach accepte aussitôt. Et il invite, dans une lettre que malheureusement on n'a jamais retrouvée, mais on a le témoignage, il invite Marchand à le rencontrer à Dresde. Or, Bach connaît la musique de Marchand. Il l'estime, comme il apprécie celle de Couperin, de Lully, de Grigny, de d'Anglebert. Il connaissait bien la musique française et il était fort curieux de rencontrer ses contemporains compositeurs. Le voici donc en route pour Dresde. Et très certainement, on le devine à lire les témoignages, il a rencontré Marchand, bavardé avec lui. Ils ont dû passer plusieurs jours ensemble à échanger des propos sur l'art musical, sur les instruments, essayant tous les deux, l'un devant l'autre, un orgue, un clavecin, peut-être même d'autres instruments, qui le sait. Et en tout cas, l'orgue. Plus tard, le fils cadet de Bach, Carl-Philippe Emmanuel, qui nous a laissé un certain nombre de récits sur son père, va raconter ainsi l'histoire. Je cite Carl-Philippe Emmanuel. « Volumier reçut mon père avec joie. Il lui donna l'occasion d'entendre d'abord son adversaire à l'insu de tous. » J'imagine dans une salle d'un palais, derrière un rideau ou une porte. Bach envoya ensuite une lettre très polie, dans laquelle il invitait Marchand à ce concours. Il s'y déclarait prêt à jouer sans préparation toutes les œuvres de musique que Marchand jouerait devant lui. Sans préparation, c'est-à-dire en lecture, en première lecture, à vue. Et il disait espérer que Marchand, en retour, lui répondrait avec le même bon vouloir. Ça, c'est un véritable traquenard, parce que déchiffrer n'importe quelle musique, surtout la musique de Bach à première vue, n'est pas une mince affaire, on le sait bien aujourd'hui encore. Le temps et le lieu furent décidés, nous dit Carl-Philippe Emmanuel, non sans qu'on en fît part au roi en personne. À l'heure dite, Bach se trouva sur le lieu du combat, dans la maison d'un ministre très distingué, le comte von Fleming, où se trouvaient réunies une nombreuse société de gens de qualité. Marchand se fit longtemps attendre. Le maître de maison envoya enfin quelqu'un chez Marchand pour lui faire souvenir, au cas où il l'aurait oublié, qu'il était temps de se montrer un homme. On apprit cependant, avec le plus grand étonnement, que M. Marchand avait quitté Dresde le jour même, très tôt le matin et par poste. Bach, resté ainsi maître du terrain, eut donc l'occasion de manifester la puissance dont il était armé contre son adversaire. J'ai quand même envie d'ajouter que, comme le disait Corneille, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Peu après cet épisode peu glorieux, Marchand reviendra à Paris. Louis XIV est mort, et connaissant son style de vie, on imagine guère le régent chercher querelle aux musiciens sur son passé. Mais Marchand, en tant que musicien, va vouloir tirer un trait sur son passé. Il est devenu une sorte de pénitent. Il mène désormais une vie apparemment rangée, consacrée à son service, à l'église des Cordeliers, qui le rétribue en nature, il reçoit le gîte, le couvert. Il se consacre à l'enseignement, et c'est alors tout de même le maître le mieux payé de France, ce que justifie sans doute son talent. Parmi ses élèves, les meilleurs organistes de la jeune génération, d'Aquin en personne, Dumage, Guillain, peut-être même Rameau. Il continue à donner de temps en autre des récitals, où son talent brille toujours du plus vif éclat, mais il ralentit son activité de plus en plus, détaché des vanités du monde, et il s'éteindra à Paris, en 1732, âgé de 63 ans.